plus et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Des rondes. Bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de créneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on ne leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Misak Manouchian, chef des FTP MOI de la section parisienne, raconté par sa compagne, amie et camarade Mélinée, elle-même active dans la résistance.
Avant la guerre, Manouchian faisait déjà partie de la main-d'œuvre immigrée. Il y connaissait bien sûr nombre de cadres, ainsi que les responsables de l'Union populaire franco-arménienne et du Parti communiste français. Il n'eut aucune difficulté à sa sortie de Compiègne pour prendre les contacts afin d'entrer dans la résistance. Considéré surtout comme un militant intellectuel, on lui confia d'abord des responsabilités au niveau de l'organisation parmi les Arméniens. Il s'est trouvé en compagnie d'un autre Arménien, Arsène Tchakarian, et de Marcel Reymann, qui travaillait déjà depuis plusieurs mois dans la résistance. Celestino Alfonso, qui devait, avec Reymann, faire partie du groupe Manouchian, était également entré dans le combat depuis quelque temps, mais il faisait partie d'un autre détachement. Pour l'heure, ce fut Reymann qui fit en quelque sorte l'éducation pratique de Manouchian. Ce fut lui qui fut chargé de faire le compte-rendu de la première action proprement dite de Manouchian, réalisée le 17 mars 1943. Il y avait tout près du pont de Levallois une caserne de SS. Ceux-ci, chaque matin, après avoir prêté serment, sortaient de la caserne en chantant le Deutschland über alles. Je ne saurais dire où ils se rendaient, mais il semble que leur manège se reproduisait invariablement tous les matins, à la même heure. Il fut donc décidé de monter contre ces SS une action d'éclat, dont la réalisation fut confiée à Manouchian. Il s'agissait de jeter une grenade au beau milieu du groupe de soldats, au moment même où ils sortaient de la caserne et avant qu'ils ne se dispersent. Cela demandait un certain sang-froid, ainsi qu'une juste évaluation sur le terrain de l'instant favorable. Tout le monde admirait fort Manouchian pour ses qualités intellectuelles et son sens de l'organisation, mais personne ne l'avait vu à l'œuvre dans une action armée. Au reste, il n'avait jamais touché une grenade de sa vie, et ce fut Reymann qui lui a pris le maniement. Celui-ci l'a accompagné en couverture. Il y avait également Arsène, Léon et un ou deux autres partisans. À leur hache, Manouchian jeta sa grenade qui vint éclater au beau milieu des SS, dont 7 ou 8 ne devraient pas se relever, sans compter un bon nombre de blessés parmi les survivants. Ce fut alors la panique dans les rues avoisinantes. Les Allemands tiraient dans tous les sens, tout le monde courait et hurlait. Seul dans son coin, légèrement à l'écart, Manouche sortit un journal de sa poche et se mit à le lire en regardant de temps à autre du côté des Allemands, avec l'air de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. Cette attitude, après une telle action d'éclat, valut à Manouchian l'admiration de ses camarades, et en premier lieu de Rayman, qui dans son rapport loua son courage et son sang-froid. Les responsables, constatant que Manouchian, en plus de sa grande valeur en tant que cadre, était aussi un homme extrêmement courageux, le nommèrent immédiatement à la tête d'un détachement. Très vite, il devint le responsable des francs-tireurs partisans immigrés de la région parisienne. Il serait fastidieux ici de faire une énumération des actions entreprises par Manouchian et ses camarades. Ainsi, rien que durant les 3 derniers mois avant leur arrestation, et seulement pour ce qui concerne les déraillements, la liste est impressionnante. Il y eut une multitude d'autres actions, dont toutes n'étaient pas aussi spectaculaires, mais qui correspondaient toujours à une profonde nécessité. Contrairement à la propagande allemande et collaboratrice, ces actes ne soulevaient pas la réprobation de la majorité de la population. À preuve, par exemple, cette action qui eut lieu en 1943. Certains jours, un autobus rempli de SS partait de la porte d'Orléans, pour je ne sais plus quelle destination. Ces départs avaient alors longuement étudié et il s'est avéré qu'ils avaient lieu à intervalles réguliers. Il fut alors décidé de tenter une action contre ces SS. 3 camarades devaient y participer, organisés selon la technique du triangle. C'est-à-dire, le premier devait jeter une grenade dans l'autobus, le second devait protéger son retrait et le troisième devait couvrir les 2 autres. C'était ce dernier qui devait quitter le terrain après tous les autres.
L'autocar arrive. Regarde bien, tout est réglé comme une horloge. Patricio éloigne la vieille dame, il ne doit pas y avoir de victimes innocentes. Et nous, on doit faire attention à ne pas se mettre en danger inutilement. Il faut être précis. Il faut que nous restions vivants demain.
À l'heure fixée, le premier lança sa grenade dans l'autobus qui s'apprêtait à partir. Cela fit un grand nombre de victimes. Seuls quelques survivants tiraient dans tous les sens. Les 2 premiers partisans réussirent à se sauver sans problème, mais le dernier fut repéré par les policiers qui le poursuivirent dans les rues avoisinantes. Cela risquait de tourner mal pour notre camarade, quand à un coin de rue, il se trouva nez à nez avec un jeune homme à vélo. Celui-ci, sans hésiter, lui offrit sa bicyclette, ce qui allait permettre à notre ami de se sauver. En fourchant la machine, le camarade lança le nom d'un café, devant lequel le jeune homme pourra récupérer son bien. Quelques jours plus tard, un autre camarade posa nonchalamment la bicyclette à l'endroit convenu, où son possesseur le retrouva comme il était prévu. Nous tenions en effet à ne jamais léser la population. Cette manière de procéder nous apparaissait particulièrement nécessaire, car nous savions que la résistance ne pouvait exister efficacement sans que le peuple en soit solidaire. Ainsi, des milliers et des milliers de gens qui ne faisaient pas de résistance à proprement parler ont participé, à leur façon, au combat dont les partisans tenaient les premières lignes. Mais toute première ligne ne saurait avoir de valeur sans une puissante et fraternelle arrière-garde. Les Arméniens qui combattaient étaient rattachés soit à la main-d'œuvre immigrée, soit au TA, le travail allemand.
Le travail allemand était une branche de la résistance visant la démoralisation des soldats allemands, l'assistance à leur désertion et le recrutement d'agents allemands pour les renseignements.
Dès les premiers jours de la guerre, nous nous sommes rencontrés très souvent. Nous faisions des tracts qu'on distribuait parmi les Arméniens, mais aussi parmi les Français. Pour ma part, je m'occupais plus précisément de la littérature anti-nazie. Brochures, journaux clandestins, tracts, appels, etc. Pour m'aider, les responsables avaient placé auprès de moi un cordonnier. Je montais chez lui avec une valise pleine de tracts dont nous faisions de petits paquets que nous allions ensuite distribuer partout où il y avait une communauté arménienne. Nous allions ainsi au Rincy, à Issy-les-Moulineaux, Alfortville, Maison-Alfort, Sarcelles, Arnouville-les-Gonesse, et dans différents quartiers de Paris comme Belleville et d'autres endroits où se trouvaient des communautés arméniennes. Tout cela était assez risqué, je me demande comment nous n'avions pas peur de nous promener avec nos tracts. C'est que nous n'avions pas encore conscience du danger que cela représentait. Nous n'étions qu'au début de la guerre, et il ne nous semblait que la violence la plus cruelle aurait pu nous atteindre directement. Nous avons également eu de toutes petites affichettes en langue française, que nous devions coller sur les murs et partout où cela était possible. Elles tenaient dans la main, et cela était très pratique. Mais l'ennui était qu'il fallait les mouiller avec la langue avant de les poser. Avant que les Allemands n'entrent dans Paris, nous pouvions encore nous promener avec un seau et de la colle, un pinceau. Mais après, il n'en était plus question. Avec l'AS, nous nous sommes livrés à ce travail pendant quelque temps. Je passais ma langue sur le dos des affichettes, puis elle les collait, le plus discrètement possible. Après 2 semaines de cet exercice, je ne sentais plus ma langue, tant elle me faisait souffrir. Elle se trouva si profondément tailladée qu'aujourd'hui encore, elle en a gardé les traces. Pour les rapports concernant les actions accomplies, j'employais à la place des noms un code numérique. Ainsi, le 10-300 était Manouchian, le 10-305 était Alfonso, 10-318 Rayman, etc. Les deux derniers représentaient l'équipe spéciale, car ils étaient véritablement les plus audacieux. Ce sont eux notamment qui ont participé aux 2 actions les plus spectaculaires, celles qui firent le plus de bruit à l'époque et qu'on cite toujours lorsque l'on parle du groupe Manouchian. Il s'agit des exécutions de von Schönburg et de Ritter. La première eut lieu le 28 juillet 1943. Von Schönburg était le commandant du Grand Paris, et à ce titre, c'était lui qui signait les affiches avertissant les Parisiens des exécutions qui avaient lieu de plus en plus souvent. Le nom de von Schönburg était devenu synonyme d'assassin pour toute la population, qui lui portait une haine farouche. C'est dans cet esprit qu'il fut décidé, au niveau le plus élevé de la résistance, de supprimer ce sombre personnage. La réalisation de cette exécution fut confiée à Manouchian. Ils étudièrent alors avec la plus grande minutie les possibilités de mener à bien cette action. Von Schönburg habitait une luxueuse demeure près du bois de Boulogne. De là, il se rendait chaque matin à la commandatur de la rue de Rivoli. Dans sa voiture se trouvait toujours, outre son chauffeur personnel, un officier supérieur et un sous-officier. C'est pour cette raison que la bombe fut choisie, dans l'espoir d'avoir tout ce beau monde d'un seul coup. Quant à l'endroit où cela devait se faire, après de longues et patientes études de parcours, il fut décidé que l'action se ferait à l'angle de l'avenue Paul Doumer et de la rue Nicolo, dans le 16e arrondissement. 2 raisons à cela. La première était que la voiture ralentissait toujours à cet endroit où elle devait tourner. La seconde raison était que les quartiers avoisinants se prêtaient à un repli rapide et sûr. C'est à Rayman et Alfonso que la mission fut confiée. Le matin du jour fixé, tout se passa comme prévu. Il n'y eut pas un seul survivant parmi les occupants de la voiture. Ce fut Rayman qui jeta la bombe, tandis qu'Alfonso et d'autres camarades couvraient sa retraite. À propos de cette exécution, le bruit a couru après la guerre que von Schönburg ne se trouvait pas à Paris ce jour-là, mais que c'était son remplaçant qui avait pris sa place dans la voiture. Aujourd'hui encore, on ne connaît pas la vérité. Quoi qu'il en soit, le résultat fut le même. Cette exécution provoqua un désordre certain dans l'administration allemande et sauva la vie à bon nombre de gens qui devaient être fusillés dans la journée suivante. Enfin, l'annonce de la mort de von Schönburg provoqua un réel soulagement parmi les Parisiens, qui approuvèrent l'action des partisans. Après cette éclatante réussite, C'est tout naturellement à notre groupe que fut confiée l'exécution d'un autre personnage, tristement célèbre lui aussi. Il s'agissait de Julius Ritter, responsable du service du travail obligatoire en Allemagne. Il avait organisé le départ de 600 000 ouvriers. Comme tel, il était un criminel pour le peuple de France. En réalité, Ritter voulait employer les mêmes méthodes utilisées en 1418 par les Allemands qui supprimèrent les Arméniens par les mains des Turcs. Manouchian s'occupait sérieusement de ce criminel plein de haine contre les Arméniens. Après avoir rassemblé tous les renseignements nécessaires et préparé les manœuvres, Manouchian donna ses ordres au groupe désigné. La mort de Ritter fit grand bruit jusqu'à Berlin, où Hitler, dont il était l'ami intime, considérant que cet attentat l'avait touché personnellement, décréta une journée de deuil national dans toute l'Allemagne. Après de telles actions, nous ressentions toujours une profonde satisfaction. Il nous semblait alors possible d'oublier tout le reste et de nous ressouvenir de nous-mêmes. Malheureusement, cela ne durait jamais plus d'une journée, car aussitôt, il fallait préparer d'autres actions, courir d'autres risques et atteindre de nouveaux objectifs. Quand je parle de risques, il s'agissait surtout de ceux encourus pendant les actions elles-mêmes. Encore qu'elles étaient toujours préparées avec le plus grand soin, de telle sorte que rien ne soit laissé au hasard. Mais l'imprévu, quoique toujours envisagé, pouvait survenir malencontreusement. Quant aux risques que notre groupe courait, ils étaient réduits au minimum grâce à l'étude minutieuse des circonstances qui précédaient ces actions. Nous étions organisés de telle manière qu'il était impossible que la police ou la Gestapo pût remonter d'un seul maillon la chaîne que nous formions. Les adresses, ainsi que les véritables noms de camarades, étaient rigoureusement tenus secrets. Moi-même, je n'ai appris le nom d'Olga Banchik, par exemple, que bien après le procès. Certes, je l'avais rencontrée deux ou trois reprises, dans la rue ou dans un café, mais pour moi, elle se nommait Pierrette, comme pour tout le monde. Pourtant, Manouchian fut arrêté, et pas seulement lui, mais tous ses compagnons les plus proches. Cela aurait pu être un manque de chance, mais nous ne nous étions jamais fiés à la chance. Manouchian ne permettait pas qu'il y ait une seule malchance sur 1000 sans aussitôt tout reconsidérer, jusqu'à ce que cette éventualité fût totalement écartée. Pour que cela tournât mal, il aurait fallu à un niveau au-dessus de Manouche que des erreurs graves fussent commises, ce qui semblait bien improbable. Ou bien encore, qu'il y ait trahison. Mais nous ne pouvions envisager cette dernière éventualité. Toutefois, il nous fallut peu à peu se rendre à l'idée que quelque chose n'allait pas tout à fait normalement. Plus nous avancions dans l'année 1943, plus nous commencions à trouver étranges certains faits qui ne correspondaient pas à ce que l'on était en droit d'attendre de certains chefs. Ainsi, les derniers mois qui ont précédé l'arrestation du groupe furent pour Manouchian et ses camarades, et plus tard pour moi, le temps des doutes. Certains faits nous incitèrent peu à peu à nous poser des questions. Parfois, c'était seulement une impression, un sentiment de malaise à propos d'une attitude ou d'un ordre de la part d'un chef qu'on appelait Roger. Mais de cela, il est difficile de rendre compte, car nous-mêmes, nous ne savions pas toujours expliquer ce que nous ressentions. Ce qui est sûr, c'est que l'inquiétude nous prenait de plus en plus souvent. Par contre, il y a d'autres faits dont je me souviens qui ne permettent pas le doute, mais qui confirme l'idée selon laquelle le filet serait serré autour de Manouchian et de ses camarades. Vers le début du mois d'octobre 1943, Manouche avait rendez-vous avec Henri Karajan, qui était membre du groupe Manouchian. Ils devaient se rencontrer dans la rue, comme par hasard. Mais lorsque Manouche fut sur le point d'aborder notre ami, celui-ci fit discrètement signe de n'en rien faire. Manouche s'exécuta et croisa Karajan sans lui parler. À cette époque, ce dernier logeait chez ma sœur, et c'est là que Manouche vint le voir peu après. Henri lui expliqua alors qu'il était suivi. Manouche s'en était aperçu et précisa qu'il avait été également filé, à plusieurs reprises. Constatant que ces faits n'étaient pas isolés, Manouche décida d'en faire part à Roger, responsable de la MOI. Mais celui-ci rétorqua que c'était une idée qu'il se faisait, que cela n'était pas possible et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Manouche insistait, disant qu'il serait peut-être préférable pour lui et ses camarades de cesser un certain temps leurs activités, ou du moins de changer de secteur. Roger se mit alors en colère, affirmant que si l'un d'entre eux abandonnait son travail, il serait immédiatement porté déserteur. Devant cette attitude, Manouche ne pouvait rien faire d'autre que de poursuivre ses activités. Ce n'était cependant pas la première fois qu'il avait eu un différend entre Manouchian et ce Roger. Précédemment, celui-ci l'avait obligé à accepter de travailler avec un commissaire politique qui s'appelait Albert. Manouchian n'avait aucune confiance dans cet homme et voulut refuser son aide, mais devant l'insistance de Roger, il dut se plier à cette décision. Albert connaissait bien sûr les adresses des camarades du groupe et surtout, il était au courant des actions prévues, sans toutefois en connaître le déroulement exact. Un jour, il fut arrêté, sans que nous ayons su dans quelles circonstances, ni la raison précise de son arrestation. Nous devions apprendre peu après qu'il avait été relâché, apparemment sans problème. Cela contraria beaucoup Manouche, qui redoutait que l'homme ait parlé. Peu de jours après le rendez-vous manqué, Roger demanda à Manouchian de fixer un autre lieu de rendez-vous avec Karajan. Ce dernier, apprenant que ce lieu était situé tout près du bureau de distribution des cartes d'alimentation, où continuellement se trouvait un grand nombre de policiers en uniforme et en civil, il dit à Manouchian que cela n'était pas possible, que c'était de l'inconscience, et que Roger voulait leur mort. Manouchian répondit alors d'une voix sombre, comme s'il se parlait à lui-même.
« Je crois en effet qu'ils veulent nous mener à la mort. »
Ce n'était pas dans son habitude de parler à tort et à travers, surtout pour dire de telles choses. Il fallait qu'il soit particulièrement inquiet. Il en fut de même quand, en présence de Karajan, d'autres camarades et de moi-même, il en arriva à formuler à sa conviction que l'ex-commissaire politique avait parlé. Je dis alors à Manouche que cela ne pouvait pas durer et qu'il devait en parler à ses responsables français, afin que ceux-ci lui permettent de freiner nos activités, ou bien qu'il n'y ait plus de rencontres entre les camarades du groupe pendant un certain temps, ou encore que nous changions de ville. Nous pouvions très bien aller à Marseille, où nous aurions été tout aussi très utiles. En général, Manouche ne disait rien, mais son silence me faisait comprendre qu'il n'était pas contre cette solution. Il décida même, au bout d'un certain temps, d'en parler avec un proche camarade, David Davidian. Celui-ci décida alors, en accord avec Manouchian, de proposer aux responsables de la résistance la mutation du groupe. Nous étions soulagés à l'idée que bientôt nous allions changer de cadre et que nos inquiétudes allaient se dissiper. À Grenoble, une manifestation avait été prévue à l'occasion de l'armistice. Au cours de la manifestation, la police se livra à un grand coup de filet, arrêtant plusieurs centaines de manifestants, dont David, qui de ce fait n'eut pas le temps de parler aux responsables, comme il en avait l'intention. Il devait être déporté à Buchenwald. Cela coupa court à nos espoirs de quitter la région parisienne et tous nos projets tombèrent à l'eau. Mais nos appréhensions ne devaient plus durer bien longtemps, puisque à peine une semaine plus tard, nous devions être fixés de la plus tragique manière.
Sarazza, usi. sur la roche de ta malassie. Cousin, on a tué, c'è un calo d'andar su a lui serazza usi la usce da ta manazzi cusea non accesce c'è
Le 15 novembre 1943, Manouche me demanda de l'accompagner à un rendez-vous. Il me donna rendez-vous à 20h précises devant un café de la rue Cherche-Midi. Il était très important d'être exact et le premier arrivé ne devait jamais attendre plus de 5 minutes. Lorsque je suis arrivée, Manouche était déjà là. Nous sommes entrés dans le café et nous avons pris un verre au comptoir. De temps à autre, Manouche en sortait et regardait dans la rue. Quelques instants plus tard sont arrivés Henri, que je connaissais très bien, puis Olga Banchik, que j'avais rencontrée deux fois et dont, comme je l'ai déjà dit, je ne connaissais que le nom de résistance, Pierrette. Tous trois se sont alors parlé tout bas, à l'oreille, puis Pierrette m'a remis un paquet de la grandeur d'une boîte de chaussures. Je l'ai glissé dans un sac que Manouche m'avait demandé d'apporter. Nous avons alors formé deux couples, Henri et moi d'un côté, Pierrette et Manouche de l'autre. C'était de leur côté que les choses importantes se disaient. Nous, nous avons parlé de tout et de rien, en attendant de nous séparer. Mais soudain, il y eut dans le café un mouvement général. Nous avons tout de suite senti que quelque chose allait se passer. Nous étions alors sur le point de sortir. Nous avons alors compris qu'il y avait une rafle. J'ai immédiatement dit à Manouche de partir, car il connaissait très bien les petites rues de ce quartier, et c'est lui qui risquait le plus de nous tous. Mais il voulut récupérer le paquet que m'avait donné Pierrette. Comme il insistait pour reprendre le paquet, je lui dis que j'avais toujours eu plus de chance que lui. « Va, pars et sois certain que je m'en sorte. » Cela s'est passé en quelques secondes. Manouche se décida enfin à partir, ainsi que Pierrette, chacun de leur côté. Quant à Henri et à moi, nous sommes entrés séparément dans la station de métro qui se trouvait à proximité. Dans les couloirs, je me suis retrouvée prise dans la rafle. Il y avait des soldats allemands et des policiers français en civil. Ils m'ont demandé ce que j'avais dans mon sac. Je répondis, Des armes ? Ils se sont alors mis en colère et les Allemands criaient le plus fort. Un policier français me dit alors.
Mais on ne plaisante pas avec ces choses-là, c'est pas un jeu. Une autre fois, ça se passera pas comme ça, allez circuler.
Décidément, je ne devais pas avoir l'air d'une conspiratrice. Il faut dire que j'étais jeune. Mon visage espiègle faisait souvent qu'on ne me prenait pas au sérieux ce que je disais. En d'autres circonstances, cela me mettait en colère. Mais cette fois-là, très certainement, cela me sauva la vie. Je pus ainsi prendre mon métro jusqu'à Plaisance. Manouchian était déjà là. Il me demanda aussitôt si je n'avais pas été suivi. Il paraissait extrêmement inquiet. Jamais je ne l'avais vu dans un tel état. Il me demanda aussi si je n'avais pas remarqué des hommes en bas de chez nous. Pour sa part, il avait repéré deux hommes qui semblaient le guetter dans le café, qui se trouvaient en face. Je crois que lui avait été suivi. Manouche me prit alors le paquet que j'avais porté et me pria d'aller au cinéma avec une jeune fille arménienne qui habitait tout près de chez nous. Je n'avais vraiment pas envie d'aller voir un film. Je tentais de refuser, mais il insista tellement, me suppliant presque, que je ne pus que m'incliner. Il m'indiqua lui-même le film que je devais aller voir. Assurément, il voulait rester seul. Il me dit simplement qu'il avait beaucoup de choses à faire. Mais cela ne me rassura guère. Pendant la projection, je ressassais mille pensées. Je songeais à la filature dont Manouche devait être l'objet. Je pensais à Henri, à Pierrette, à Arsène, qui étaient dans le même cas, ainsi qu'à d'autres camarades également suivis. Je sentais que le filet se resserrait autour de nous tous. Mais que faire ? Du côté de l'espoir, toute réflexion semblait vaine. C'était ce qui me crispait le plus. Dans l'obscurité de la salle, je me sentais affreusement seul. Mon ami ignorait tout de nos activités. Je n'avais qu'une seule hâte, rentrer le plus tôt possible et retrouver Manouche. Il était 11h du soir lorsque je suis rentré. Manouche était en train de nettoyer un pistolet sur lequel il y avait un peu de rouille. Le paquet que j'avais transporté contenait des armes, certainement destinées à une action qui devait avoir lieu le lendemain matin. Manouchian voulut alors m'expliquer le maniement d'un pistolet. Je ne m'étais jamais servi d'aucune arme et je ne voulais pas m'en servir. Mais comme une fois de plus, il insistait, je dus l'écouter en faisant semblant de comprendre. Mais mon esprit était ailleurs, pris dans l'angoisse comme dans un étau. Je savais que je ne me servirais jamais de cette arme. D'ailleurs, Manouche non plus ne voulait pas que je sois amené à les utiliser. Mais ce soir-là, le dernier que nous devions passer ensemble, il voulut m'apprendre. Nous avions acheté un poêle dont nous ne nous étions encore jamais servis. À l'intérieur, il y avait de la paille, sous laquelle Manouche cacha un pistolet. Il me demanda de m'en souvenir. Je ne voulais pas le contrarier, lui rappelant même que j'avais beaucoup de mémoire et que je n'oublierais rien de ce qu'il m'avait appris. Je le répète, jamais je ne l'avais vu dans un tel état. Tout en lui semblait refléter l'inquiétude la plus profonde. Lui qui d'habitude était si équilibré, ne disant que le nécessaire, mesurant chacun de ses mots, voilà qu'il ne cessait ce soir-là de marmonner des paroles auxquelles je ne comprenais rien. J'essayais d'entendre ce qu'il disait en m'approchant de lui et en tendant l'oreille. Jamais non plus, pour ma part, je n'avais été aussi indiscrète. À tel point que, alors que Manouche était occupée, j'ai pour la première et la dernière fois de notre vie commune fouillé dans ses poches. Je faisais semblant de ranger les vêtements et j'ai glissé négligemment mes mains dans les poches de son veston. Dans l'une d'elles, j'ai trouvé une petite feuille de papier où j'ai pu lire le signalement de Manouchian. On ne pouvait pas s'y tromper. La description était parfaite. Rien ne manquait, ni la taille, ni la couleur des cheveux ou des yeux, ni l'allure et la façon de s'habiller. Il y était même mentionné la minuscule cicatrice sur la joue, signe particulier de presque tous les Arméniens venus de Syrie. On pouvait le reconnaître entre mille. Ce signalement ne pouvait émaner que d'Albert, l'ex-commissaire politique, qui avait été arrêté, puis relâché. La seule chose que celui-ci ne connaissait pas, c'était le véritable nom de Manouche. Aussi était-il question, sous la mention « recherche », de Georges. En effet, Manouche était connu dans la résistance sous le nom de commandant Georges. Devant cette découverte qui me bouleversa, je me tournai immédiatement vers Manouche, m'exclamant. « Comment ? Tu as ce papier dans la poche et tu ne me dis pas ? Sur le moment, il fut décontenancé et peut-être un peu furieux que j'ai découvert ce papier. Mais son silence était pire que tout ce qu'il aurait pu dire. Je dis alors que jamais je ne le laisserai partir le lendemain. Manouche ne tenta pas de discuter. Très calmement, il s'est alors déshabillé et s'est mis au lit en me disant seulement
« Viens te coucher. »
Puis il me fit des recommandations pour le lendemain matin.
« Si demain, je ne suis pas rentré à 10h30, tu laisses tout et tu sors. Nous nous retrouverons à 8h du soir au métro Danube, comme convenu. »
Ce soir-là, les paroles de recommandation de Manouche furent les seules qui furent prononcées. Aucun sentiment, aucune tendresse ne furent exprimés, d'aucune manière. Pendant cette dernière nuit que nous avons passée ensemble, cela aussi était exceptionnel. D'autant plus que j'avais la même attitude que lui. Nous étions préoccupés jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Manifestement, Manouche était particulièrement contrarié de ce que j'avais découvert dans sa poche. Cela ne l'avait cependant pas empêché de se livrer à un calcul très précis. Plus tard, je devais rétablir le raisonnement qui avait dû être le sien. Manouchian avait un rendez-vous le matin du 16 novembre avec certains de ses camarades, apparemment pour participer à une action. Cela devait se passer en banlieue d'assez bonne heure. Ce qui est dramatique, c'était qu'il était le seul à savoir qu'il se préparait certainement à un important coup de filet. Mais il lui était absolument impossible de prévenir les autres. La seule possibilité était qu'il se trouvât au rendez-vous à l'heure fixée, dans l'espoir, fou à mon sens, de prévenir les camarades avant que le pire ne se produise. Il y avait aussi une autre solution, qui consistait en ce qu'il ne se rende pas à l'endroit prévu. Mais de cela, il n'était pas question. Manouchian risquait alors, presque à coup sûr, de passer pour un déserteur, voire un traître, ce qu'il redoutait bien plus que la mort. En tout état de cause, il savait que l'action prévue n'aurait pas lieu. D'où sa déduction, selon laquelle, s'il pouvait revenir, ce serait sûrement avant 10h30. Dans le cas contraire, il avait calculé que la Gestapo ne viendrait pas chez nous avant 11h, 11h30. Sans posséder à cette époque tous ces éléments, je sentais bien que je risquais de ne plus jamais revoir Manouche. Ce soir-là, ce n'était pas le mari qui me parlait, mais le chef d'un groupe de résistance. Son seul souci était que je sauve ma vie. Il me regardait alors d'une étrange et terrible façon. Il y avait dans ses yeux à la fois de la pitié, de la crainte et l'expression d'un immense amour inachevé. Il savait que pour lui c'était la fin. Il savait qu'il ne me toucherait jamais plus. Il voulait que je vive et ainsi continue de vivre lui-même au travers de moi. Il m'a serré dans ses bras sans m'embrasser et je sentais qu'il tremblait. Il tremblait au plus profond de lui. Il ne cessait de me répéter.
Ne t'en fais pas. Surtout, ne t'en fais pas. Surtout.
Mais ce n'était plus le Manouche que je connaissais. Ce ne pouvait pas être lui, cet homme angoissé et qui semblait, en cet instant, plus fragile qu'un papier consumé. Il n'était pas dans son état normal. Il savait. Je ne voulais pas me coucher. Je ne voulais pas qu'il parte le lendemain matin. Il semblait si faible l'instant d'avant. Ce n'était pas le combattant qui était ainsi. C'était l'amoureux d'une femme. Au matin, je savais que ce serait l'autre, le combattant, qui allait se réveiller. J'ai bu peut-être 10 ou 15 cafés afin de ne pas m'endormir. Manouche, quant à lui, s'est endormi très rapidement. Je ne me suis pas déshabillée. Je marchais de la chambre à la cuisine et de la cuisine à la chambre, cela pendant des heures. À un moment, je suis venue m'asseoir sur le lit près de Manouche. Puis je ne me souviens plus de rien. Le lendemain, quand je me suis réveillée, il était déjà plus de 7h. Manouche était déjà parti. Je ne l'ai jamais revu.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour. Mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Pendant les 3 mois qu'ils passèrent à la prison de Fresnes, les 23 ont été longuement interrogés. C'est-à-dire qu'ils ont été torturés, comme le prouvent les cicatrices qu'ils portaient lors du procès. Pendant toute la durée de ces interrogatoires, ils n'ont rien dit d'autre que ce qu'ils avaient fait, et pourquoi ils l'avaient fait. Ils n'ont jamais eu un mot de regret, affirmant au contraire qu'ils n'avaient fait que leur devoir. Chacun donna ses raisons propres, en plus des raisons qui leur étaient communes. Ainsi, les Juifs affirmèrent qu'ils se défendaient contre la barbarie nazie qui voulait les exterminer, les Arméniens qu'ils combattaient pour préserver la liberté de leur peuple déjà massacré lors de la Première Guerre mondiale, avec la bénédiction des Allemands, les Espagnols qu'ils se battaient contre le fascisme qui sévissait dans leur pays, les Italiens qu'ils avaient pris les armes afin de pouvoir rentrer dans leur pays d'où Mussolini, l'allié d'Hitler, les avait chassés, les Polonais, qu'ils luttaient pour l'existence même de leur patrie qu'Hitler avait rayée des cartes de géographie. Tous, ils proclamèrent qu'en combattant avec leur peuple contre l'occupant nazi, ils avaient fait leur devoir envers le pays qui leur avait offert l'hospitalité.
Quand un train déraille, quand des wagons sont détruits, quand on fait sauter des locomotives, Il n'y a pas de train ni de wagons en moins pour les transports allemands. Ce sont les Français qui se passeront de transport. Quand un bombardement atteint une centrale électrique ou un barrage, quand un sabotage fait sauter un transformateur, coupe un câble transporteur d'énergie, ce sont les ouvriers français qui chauffent. Ce sont les ménagères françaises qui manquent d'électricité. Ce sont les artisans français qui voient s'arrêter leurs outils.
Messieurs les journalistes, voici le groupe Manoukian au grand complet. Vous apprécierez vous-même la brochette. Des juifs polonais, hongrois, roumains, mais aussi des communistes espagnols et italiens, avec à leur tête leur chef de bande, arménien. Et ils se prétendent libérateurs. Mais leur armée, c'est l'armée du crime, de la vengeance et de la haine. Les généraux Raffenbach et Oberg ont souhaité qu'une affiche soit placardée sur nos murs de France avec leur faciès de terroristes en médaillon. Voilà, je vous laisse faire votre travail avec l'échantillon représentatif que nous avons sélectionné.
Pendant le procès, on n'en finirait pas de citer des détails par lesquels Manoukian et ses camarades ont forcé l'attention des gens qui se trouvaient présents aux audiences. Mais bien plus que de l'admiration, c'était de la surprise que devaient ressentir les spectateurs. Naturellement en bon terme avec les Allemands puisqu'ils étaient invités. Manoukian avait dû préparer sa dernière allocution, mais devant la haine qui dans l'assistance s'exprimait si fortement à son égard, il improvisa à peu près ce qui suit. Se tournant d'abord du côté des Allemands, il dit
« Vous, j'ai rien à vous dire, j'ai fait mon devoir qui était de vous combattre. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. C'est maintenant à vous de jouer contre... C'est maintenant à vous de jouer votre rôle. Je suis entre vos mains. »
Puis, se tournant vers les Français.
Mais quant à vous, vous êtes Français. Nous, nous avons combattu pour la France, pour la libération de ce pays. Vous avez vendu votre conscience et votre âme à l'ennemi. Vous aviez hérité de la nationalité française. Nous, nous l'avons mérité.
Ces paroles furent retransmises par la radio d'Alger, alors que la radio de Londres énumérait toutes les actions importantes du groupe Manoukian. Les 23 furent condamnés à mort. Lorsque la sentence fut prononcée, le président leur demanda s'ils comptaient demander la grâce. Tous ses camarades se sont alors retournés vers Manoukian et le fixèrent dans ses yeux noirs et profonds, et tous ensemble, ils prononcèrent.
Non. Non.
Ils avaient théoriquement plusieurs jours pour déposer un éventuel recours en grâce, mais les Allemands étaient trop pressés d'en finir avec ces hommes qui leur avaient tenu tête pendant si longtemps. C'est le jour même qu'ils furent fusillés, mis à part Olga Banchi, qui, parce qu'une loi française interdisait de fusiller les femmes, fut emmenée en Allemagne, à Stuttgart, où elle fut décapitée à la hache le 10 mai de la même année. C'était le jour de son 32e anniversaire. Dans l'après-midi, des prêtres et la Croix-Rouge obtinrent la permission de rendre visite aux condamnés. Exprimant leur dernière volonté, ils demandèrent tous une feuille de papier et de quoi écrire. Ils purent ainsi faire parvenir à leurs proches une lettre dans laquelle chacun expliquait, en quelques mots, les raisons profondes de ce qui lui arrivait.
Ma Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident de la vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagée dans l'armée de libération en soldat volontaire, et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre et d'avoir un enfant pour accomplir ma dernière volonté. Bonheur à tous, ton Missak.
Si le travail de Manoukian et de ses camarades était d'une efficacité implacable, ils ont tous agi sans souci des lauriers qu'ils pouvaient en tirer. En fait de lauriers, ils ne reçurent que les quelques balles qui suffirent à les tuer. Certes, ils firent tout pour que leur procès serve leur cause. Mais le groupe n'était que la partie visible de l'iceberg que représentait la résistance. Car elle était celle d'enfants du peuple, de multiples combattants inconnus. Manouchian lutta comme chacun pour lui-même pour satisfaire ses convictions. Car toute vie est un combat. La nôtre, à Manouche et à moi, fut d'un certain combat. Peut-être que celui-ci a changé de visage et changera encore beaucoup et souvent. Mais toujours combattre, voilà ce qui fait la vie.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Bonsoir à tous.
Voilà, c'est voilà, lui a prouvé qu'il se finit. Un peu dur du coup, mais bon voilà.
Ouais, moi, je suis un peu retournée. La chanson déjà de Léo Ferré me retourne toujours quand je l'écoute.
C'est l'affiche rouge de Léo Ferré, L'arme du crime.
Voilà, donc du coup ce soir on vous a lu la deuxième partie du bouquin qu'a écrit Méliné Manouchian sur la vie qu'elle a eue avec Missak Manouchian. Voilà, quelques petits rappels, c'était paru aux éditions des éditeurs français réunis. Je ne me rappelle plus en quelle année, aux années 70 je crois. Voilà.
Voilà, donc lui a prouvé, ben, c'est tous les mercredis à 23h30. Et vous pouvez nous contacter par mail, par exemple, lui a approuvé tout attaché et sans accent en minuscule tout, @guiade.org, gwiad.org. Ça, c'est pour notre adresse mail. Pour notre blog, c'est luiapprouvé.noblogs.org, tout pareil, tout attaché sans accent. Et puis, ouais, pour nous contacter, il y a aussi la voie postale. On aime beaucoup la voie postale, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour on recevra un courrier d'un auditeur fervent ou d'une auditrice fervente. Du coup, c'est l'adresse, c'est émission lue approuvée, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 à Toulouse. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions en podcast, en réécoute sur le site de Canal Sud, www.canalsud.net. Et bien voilà, on n'a plus qu'à se dire à la semaine prochaine.
Yes.
Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous, et donc à la semaine prochaine.
Bonne soirée, salut.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.